La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent Dehaussay.
Nous sommes à la fin des années 1860, confrontés à la pénurie d'ivoire, un fabricant de boules de billard américain, Phelan & Collander, lance un concours pour trouver un produit de remplacement. Le prix est doté de 10 000 dollars. Parmi ceux qui vont relever le défi, il y a les frères Hyatt, des imprimeurs de l'État de New York. Alors, comme ça se pratique beaucoup dans leur profession, ils ont pour habitude de se protéger les doigts avec du collodion qui, en séchant, laisse une pellicule plastique imperméable à l'encre. Après maintes observations et quelques tâtonnements, apparaît alors la première matière plastique appelée celluloïde. Un plastique trop fragile pour résister au choc des boules de billard, mais qui va connaître un franc succès dans la fabrication d'autres objets, les dents artificielles, les manches de couteau, les boutons. C'est l'histoire et l'évolution du plastique que nous vous racontons aujourd'hui.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Voilà, le plastique c'est fantastique et avec nous pour évoquer son histoire, Philippe Decelle. Bonjour Philippe Decelle.
Bonjour Laurent.
Vous êtes plasticien et commissaire de l'exposition Orange Dreams, le plastique c'est fantastique, qui précède la naissance du prochain Plasticarium, l'Art and Design Museum à l'Atomium. Ça, ce sera dans quelques mois, mais donc il y a l'expo en ce moment. Alors le plastique, tous les plastiques ont au fond un siècle, mais il y a d'autres matériaux modelables qui les ont précédés dès la préhistoire, dit-on. Est-ce que vous avez des exemples de ce qu'on pourrait considérer comme le plastique d'antan ?
Il y a d'abord le plastique naturel, l'ambre. Il y a la résine de pin, le shellac qu'on utilisait pour des colles. Et puis, si on analyse chimiquement le plastique, on peut considérer que le papier mâché avec lequel on faisait les premières petites tables industrielles sous Napoléon III et la reine Victoria était quelque part une matière plastique puisque de la fibre et du liquide qui durcit.
Alors, dès le début de l'ère industrielle, les chimistes, les savants, les inventeurs vont chercher des moyens d'améliorer ces gommes végétales, de produire aussi des plastiques synthétiques à partir des ressources naturelles. Alors, il y a la parkésine en 1862 qui a été inventée par l'anglais Alexander Parkes. Est-ce qu'on peut considérer que c'est déjà une avancée pour le plastique que l'on connaît aujourd'hui ?
Oui, mais ce sont des plastiques qui étaient découverts par hasard. Par exemple, celluloïde, c'était du formaldéhyde dans de la caséine de lait. Je vais être plus vulgaire, dans un pipi dans du lait caillé, mais je n'ai jamais fait moi-même les proportions pour essayer de l'obtenir. Le premier essai industriel, Cocorico, c'est un Belge, c'est un gantois. C'est Backlant qui a créé la bakélite, mais comme il trouvait le pays trop petit, il est parti dans le New Jersey pour qu'il y ait un écho mondial à sa découverte. Et je me souviens encore des vieux téléphones parentaux bien lourds en plastique.
Ce Backlant, cette bakélite, on va en faire toutes sortes d'objets, pas que le téléphone. Ça va quand même avoir une importance assez conséquente.
Oui, et qui va faire entrer le plastique dans l'ère de la modernité, parce que comme c'est un bon isolant, on va l'utiliser pendant tout le XXe siècle pour ce qui est électrique et maintenant pour tout ce qui est électronique. Et là, l'avenir est énorme puisque on n'a pas trouvé meilleur pour l'instant comme isolant. Le vrai tournant scientifique va se faire en 1933 où un Allemand, Staudinger, va inventer la chimie organique qui nous a bien ennuyés tous dans les cours de secondaire, mais qui va permettre de créer ce que l'on appelle tous les plastiques modernes.
Ouais.
Ce sont des matières très polies puisque on va y trouver le polystyrène avec lequel on fait les raviers de beurre et le pot de yaourt, le PVC qu'on retrouve absolument partout, le plexi, polyméthacrylate de méthyle, le polycarbonate avec lequel on va faire les cockpits d'avion, et des matières vont également trouver leur application pendant la guerre. Et pendant la guerre aussi, on va essayer, par exemple, puisque le Japon avait tout le commerce des verres à soie, de faire des parachutes en trouvant une fibre qui soit à la fois très résistante et très légère. Et c'est comme ça qu'une équipe de New York et une équipe de Londres vont y mettre le paquet et découvrir New York, Londres, le Nil long.
On reviendra sur quelques-unes de ces étapes que vous venez d'évoquer à Philippe de Sel, mais vous le disiez, beaucoup d'avancées sont le produit du hasard. Ça veut dire quoi? Qu'on ne croyait pas trop à ces matières, ou c'est pas sur ces matières directement que l'on réfléchissait?
Ben, le hasard a eu lieu jusqu'à ce que l'on trouve l'explication scientifique. C'est-à-dire qu'on découvrait, puis on trouvait une application à ces découvertes. Tandis que, après 1933, on invente les matières sur papier et on cherche comment les réaliser a posteriori. Et c'est que là qu'on va trouver que comme dérivé du pétrole d'abord, mais aujourd'hui plein d'autres dérivés, ces matières vont pouvoir être construites.
Nous sommes avec Philippe de Sel, on évoque l'histoire du plastique.
La femme n'est pas l'égale de l'homme. La cuisine, moi j'adore la faire.
Une véritable révolution débarque dans les cuisines. Tupperware, la boîte hermétique qui conserve l'ultime fraîcheur de vos aliments. La grande question désormais, jusqu'où ira cette innovation?
Un jour dans l'histoire.
Voilà une publicité là des années 70. Les plastiques, Philippe de Sel, peuvent être fabriqués à partir de nombreuses matières premières, pourvu qu'elles contiennent du carbone. Alors après la Première Guerre mondiale, les industriels de la chimie vont privilégier le carbone fossile, du charbon, du gaz naturel, surtout du pétrole. Alors vous l'avez évoqué cette invention déjà brièvement, revenons quelques instants dessus, c'est le polyéthylène. À qui doit-on sa découverte?
Là, franchement, je ne le sais
c'est,
pas.
C'est l'allemand Van Peckman.
Les premières applications connues sont les Tupperware du monsieur Earl Tupper. Ouais. Et qui se sont répandues d'une manière amusante puisque c'était des réunions entre épouses qui permettaient de servir de réseau de distribution. Ce qui va avoir une énorme influence, c'est la reconstruction de l'Europe après la guerre et la destruction pendant cette guerre de tous les réseaux de matières nobles comme la loupe d'amboine, les cales de tortue ou la peau de requin, le galuchat, on ne parle plus de ça. Il faut reconstruire vite et créer une nouvelle esthétique avec des matières nouvelles. Et le plan Marshall, les États-Unis, vont donner à Monza, au nord de Milan, une usine de plastique. Alors ils se sont demandé, mais que va-t-on en faire? Eh bien, l'idée, c'était de faire passer justement les plastiques de la cuisine des années 50 au living. Mais évidemment, pour vendre aux gens une matière qui n'a pas beaucoup de valeur, il faut pallier sa pauvreté par une créativité débridée, ce que les techniques de moulage du plastique permettent.
Est-ce que les Américains vont être précurseurs également dans cette invasion ou dans cette explosion du plastique?
Je ne peux le dire parce que trois générations sont passées et je connais le contexte dans lequel moi j'ai vécu ici en Belgique. Mais une chose est certaine, c'est que l'usine placée en Italie va mettre les Italiens comme fer de lance du design. Science qui est fort appréciée aujourd'hui en Europe. Ils ont été les meilleurs, les plus sensibles, parce qu'ils ont eu en main, la première fois, de pouvoir exécuter des productions de masse d'une qualité certaine.
Ça correspond aussi, évidemment, avec l'essor de ce qu'on appelle la société de consommation. Le plastique se confond, l'utilisation du plastique se confond avec cela.
Totalement. Mais là, je voudrais faire une précision par rapport à notre époque. On reconstruisait la guerre, on était content d'avoir, en tout cas mes parents, d'hériter de ce qu'ils pouvaient avoir gardé. Ils avaient très peu de plastique à la maison, peut-être effectivement quelques Tupperware. Mais après le boom de la construction, énormément d'architectes se sont reconvertis pour créer l'environnement intérieur. C'est pour ça que les premiers groupes de design s'appellent tous archi quelque chose. Et ça, c'est assez étonnant. L'Italie a eu un tel développement qu'une grande exposition en 1973 s'est faite au musée d'art moderne de New York qui s'appelait l'Italie, un nouveau paysage de design. Et c'est un des ouvrages sur lequel je me suis basé, ainsi que Le plastique dans l'art, qui est un livre français, pour établir la collection que j'ai faite dans les brocantes et puces.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette collection? C'est le souvenir de l'enfance, la nostalgie?
D'abord, c'est peut-être toute la créativité de la génération qui était au-dessus de moi dans ma jeunesse. J'ai 20 ans, mai 68. Et c'est la pleine production de toute cette expression super colorée qui va être renforcée par la période psychédélique. C'est d'ailleurs ça que j'ai essayé de montrer de la manière la plus populaire possible dans l'exposition de l'SBL Atomium.
Alors, la vaisselle, les meubles prêts à porter, mais bien d'autres domaines encore. Hein. Les carrosseries de voitures, par exemple, avec le toit de la déesse qui était en plastique. Le plastique envahit tout.
Oui, mais ça ne marche pas tellement. Ça marche beaucoup mieux aujourd'hui pour les carrosseries. Alors, il est évident que la société de consommation, à l'époque, comme on n'avait pas grand-chose, apparaît comme une liberté, ouais, une expression extraordinaire. J'aimerais bien qu'on dise aujourd'hui, parce qu'il y a des jours, ça me sort par le nez et les oreilles, on est dans une société de surconsommation. Et je ne veux pas faire de comparaison par rapport au bonheur que ça représentait à l'époque. Et derrière les objets, il y a quand même la compréhension d'une époque et qui est un effet sociologique.
Les années 50, donc celle de l'arrivée de la couleur, de la consommation de masse, on l'a dit, de la diversification. Quelques dates, en 1956, le designer finlandais Eero Saarinen conçoit sa fameuse chaise tulipe. 58, c'est Lego qui lance sa géniale petite brique qui est en boitable et qui a fait le bonheur de tant d'enfants et qui le fait toujours aujourd'hui. Est-ce que ces innovations sont tout de suite acceptées par le plus grand nombre, ou est-ce que vous évoquiez tout à l'heure ces expositions de design, ça reste le fait d'une élite quand même.
D'une élite créative, alors pas forcément d'une élite qui a des sous, mais les jeunes architectes, les jeunes créateurs, et d'ailleurs pour être mode, ou même mode, pendant la période 60-73, il fallait travailler les plastiques, qu'on soit artiste ou que l'on soit créateur de mobilier.
On va s'attarder maintenant sur cette période de 60-70, qui est votre période de prédilection, hein, je dirais, et qui fait l'objet de cette exposition à l'Atomium en ce moment. Nous sommes avec Philippe Decel.
Et c'est là encore, mesdames, une superbe nouveauté, un tout nouveau modèle signé Tupperware, la double boîte à savon. Alors, vous mettez votre savon dans la petite boîte rose, comme ceci. La petite boîte rose, vous la mettez dans la boîte bleue, ce qui vous permet de vous doucher sans mouiller votre savon. Tupperware. Ça sert à rien, mais c'est tellement pratique.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Un sketch de Marie-Thérèse Porcher, une séance de Tupperware. Et... vous avez assisté à des séances de Tupperware, Philippe Decel ?
Non, pas du tout.
Non.
Franchement.
Alors, les années 60-70, on le disait, sont celles des nouvelles recherches scientifiques qui vont développer des matières résistantes, légères. C'est ce qu'on appelle l'utopie plastique. Ça veut dire que l'on croyait... outre mesure au plastique, on a été déçu depuis dans l'utilisation des plastiques.
Non, parce que tout s'adapte. Il est évident que le plastique a eu le plus de succès après la guerre, c'est la mousse de polyuréthane, parce que celui-là, il est caché, il a besoin d'une peau. Il va se cacher sous du cuir, sous tous vos fauteuils de voiture, dans les matelas, bon marché. On le trouve partout dans notre univers et aujourd'hui encore. Alors, le plastique, c'est au départ résultat du pétrole, mais on peut faire du plastique avec des algues, on peut faire du plastique avec des déchets de maïs, avec plein de choses, et je fais confiance à l'homme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est sa propre création. L'acier, le fer, on le trouve sous forme de minerai, le bois, on le trouve tel quel dans la nature. Tandis que le plastique, c'est le fruit d'une imagination chimique. Et donc, si on est déçu à un moment, la génération suivante cherchera à en accroître les qualités et en démolir les anciens défauts. Ça, c'est la vie.
On reviendra tout à l'heure peut-être à cette période de purgatoire qu'a connue le plastique, notamment dans les années 80. Mais restons dans ces années 60-70. On rêve d'une maison toute en plastique, au fond.
J'en suis pas sûr, mais c'était en tout cas ma vision, parce que en tant que plasticien, je me suis dit, je vais faire une sorte d'installation, parce qu'à mettre autant de plastique ensemble, ce que les gens n'avaient pas à l'époque, le style des années 60 saute aux yeux, parce que les techniques de moulage donnent un langage commun à tous ces objets.
Ouais. On peut d'ailleurs, quand on va prendre l'avion à l'aéroport de Bruxelles, on peut voir certaines de vos œuvres qui sont exposées encore aujourd'hui.
Et qui sont en plastique, en plexiglas gravé, utilisant la propriété de conduire dans la tranche, comme dans les fibres optiques, qui sont aussi une base de plastique, la lumière. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y a de plus pour rêver pour un artiste que de travailler directement la lumière ? Malheureusement, ils sont démontés pour l'instant dans l'attente de rétablissement, mais ce coup-ci en surface de la zone...
international, j'imagine.
Non, de magasin hors taxe.
Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. C'est la mission Apollo 11. Et là aussi, le plastique est associé à la conquête de l'espace.
C'est ce qui a permis aux Américains de battre les Russes dans cette course parce qu'il fallait miniaturiser. Et la base plastique qui est bon isolant a permis de, par son... parallélisme avec l'électromécanique, de faire des engins qui, à moindre poids par rapport à ceux des Russes, permettaient d'atteindre un point à une distance fixée, ici la Lune.
Et le drapeau américain que va planter Lance Armstrong.
Oui, puisque n'ayant pas de vent, il fallait bien imaginer un système pour qu'il ait l'air raide et que l'on voit bien de quel pays il s'agissait.
Ouais. Il était composé de nylon, c'est ça aussi.
Exact.
On rappelait tout à l'heure l'importance du pétrole pour la fabrication des plastiques. Alors 1973, c'est le premier choc pétrolier qui se traduit en termes de pénurie, de brut et puis d'envol des prix. Quelles conséquences pour l'utilisation du plastique ?
Comme la matière, le pétrole va avoir un prix relatif au prix de la vie courante à ce moment-là qui va fort augmenter, on va se rabattre sur d'autres matières et automatiquement il va y avoir un dénigrement de la matière qui est victime au départ de son moindre coût de la décennie précédente parce qu'on l'a utilisé pour tous les emballages dans tout ce qui est commerce. Mais là, il n'y est pour rien. Une autre matière aurait été moins chère à l'époque. C'est elle qui aurait été utilisée. Ça n'engage pas le fait que pour les objets de la vie courante et qui ont une vie beaucoup plus longue, ça puisse continuer à être un environnement. Il faut quand même rappeler que c'est une matière qui est douce au toucher, qui convient bien donc à l'environnement de l'homme.
Philippe Decelle est avec nous pour évoquer cette histoire du plastique.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur la première.
Un extrait de la BO d'Orange Mécanique. Hein, on est dans l'univers aussi, si on se souvient du film de Stanley Kubrick. On voit comme ça des intérieurs et des décors tout en plastique. Alors dès la deuxième moitié des années 70, en raison de leur très grande variété, les plastiques deviennent le matériau le plus utilisé au monde. On les retrouve dans les coulisses de pratiquement tous les progrès technologiques. Hein, ingénierie, premiers ordinateurs, mais aussi partenaires de choix dans le domaine de la santé. Et à l'hôpital aussi, le plastique rentre.
Le plastique étant une matière à la fois résistante et molle, convient bien pour faire des cœurs artificiels, ouais. Des prothèses, pour tout ce qui est ambulatoire, les poches, les tuyaux. Et donc, le plastique a eu sur notre vie un pouvoir d'amélioration absolument extraordinaire, et notamment dans les soins.
Ouais. 1982, c'est le premier cœur artificiel qui est implanté à un humain, qui est fabriqué principalement de polyuréthane. En 83, Swatch lance sa montre, qui est faite de 51 composants principalement plastiques. 89, le mot plasturgie apparaît dans le Petit Larousse, qui désigne l'industrie de transformation des matières plastique. Et puis, dans les années 80 et 90, c'est le domaine de la communication qui va bénéficier des rôles plastiques. Alors, dans quelle mesure la communication bénéficie du plastique ?
Eh bien, l'exposition, pour l'instant, sur les années 60, montre 6 tableaux. Et dans un des tableaux, il y a le nomadisme. Mmh. C'est, quelque part, le premier baladeur. C'était une radio à transistor que l'on mettait en bracelet... Il y a eu les toutes premières machines électroniques qui sont l'ancêtre des calculatrices faites par Bellini avec des pots en caoutchouc, parce que le caoutchouc est considéré comme faisant partie des plastiques.
Oui, et puis les cadres à fibre optique, hein, les câbles à fibre optique, vous le rappeliez tout à l'heure.
Oui.
Les transports, les avions également bénéficient du plastique qui participe aussi au changement d'habitude de consommation parce que la petite épicerie disparaît au profit des grandes surfaces. S'il n'y avait pas le plastique, ce serait un peu difficile à l'époque de se développer pour ces grandes surfaces avec les emballages, etc.
Oui, mais enfin là, on a trouvé depuis les plastiques qui s'autodétruisent, ouais. Et je trouve ça très très pratique, et quand même plus facile que le sac en papier qui se déchire, même si on veut absolument l'utiliser.
Est-ce que l'utilisation et la symbolique du plastique s'est renversée ou aujourd'hui, et justement peut-être à travers toutes ces foires, toutes ces brocantes de design d'avant les années 2000, on recherche le plastique, c'est devenu une sorte de branchitude?
Oh, c'est peut-être déjà passé, mais il faut rester toujours zen, la vérité est toujours dans un juste milieu.
Ouais. C'est un signe de pollution également, le plastique. C'était une période purgatoire. Aujourd'hui, on en est où?
Je crois qu'avec les nouveaux plastiques, on s'améliore sans cesse. Mais c'est vrai que je l'ai encore observé dans la dernière période de cadeaux de fin d'année, qu'on suremballe tout et n'importe quoi. Et que je m'aperçois que le volume des emballages, qu'ils soient en plastique ou non, et ce que l'on consomme à l'intérieur est à peu près, néanmoins, quand on a enlevé l'objet intérieur, à peu près équivalent au niveau volume, parce qu'on ne peut pas compresser tout ça.
Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, cette histoire du plastique, par les plus jeunes, elle est connue. Le plastique fait partie, bien sûr, de notre vie, de notre environnement. Est-ce qu'on se rend compte de l'importance, enfin les jeunes, encore une fois, se rendent compte de l'importance de l'apport du plastique?
À partir du moment où on ne décrit pas la matière en tant que telle sur chaque objet de notre vie, on n'en prend pas conscience parce que l'un est blanc, l'autre est noir, l'un est mou, l'autre est dur, et donc ça n'a plus grande importance. Ce qui compte, par contre, c'est la manière dont on peut le recycler ou non. Je rappelle que les deux grandes techniques de plastique, il y avait deux familles, les thermoplastiques qui, quand on les chauffe, redeviennent liquides, et les thermodurcissables qui conviennent mieux pour du mobilier, par exemple, mais qui, eux, restent durs, quelle que soit la température. Je voudrais citer maintenant l'apparition de nouveaux plastiques qui sont laser durcissables et que l'on retrouve dans toutes les photocopieuses à trois dimensions, ce qui est quand même un avenir extraordinaire quand on pense qu'à partir de résine et de poudre de charge, on imagine déjà en Chine de faire des maisons.
L'exposition qui a lieu en ce moment à l'Atonium, Philippe Decel, vous l'avez conçue comment? Dans quel état d'esprit? Alors je le disais, ce sont les années 60-70, hein, principalement jusqu'au premier choc pétrolier d'ailleurs, 73.
Comme la collection comporte à peu près 1100 objets, on a voulu traverser selon un thème. Le thème le plus populaire, celui de la couleur orangée, la couleur de l'optimisme, dans la période des années 60, parce que c'était la plus représentative. Et on a été étonnés nous-mêmes, en tant que présentateurs avec Thierry Bellanger de cette collection, que autant d'objets étaient de cette couleur. C'était même affolant et je n'ai pas d'explication réelle. C'était le goût de l'époque.
C'était la couleur, une couleur de joie et vous disiez d'espérance, c'est ça?
Oui, et puis tantôt on a entendu la Orange Mécanique. Il faut quand même rappeler qu'il tue la collectionneuse d'art contemporain avec une sculpture en polyester armée de fibres de verre et que dans sa chambre, il a le décor blanc, orange et tête de nègre typique de tous les imprimés de l'époque.
Ouais. On attend le musée, là, il faut nous attendre à sa création quand?
Mais pour l'instant, soit la fin de cette année, soit le début de l'année prochaine, en fonction de l'aménagement, du programme qui sera fait par les concepteurs, de mise en scène, de conservation, parce que ce sont des domaines importants.
Cette collection, vous l'avez rassemblée sur combien d'années?
Oh, le gros de la collection a été fait entre 87, quand j'ai découvert la première chaise de Joe Colombo sur des grandes poubelles, et que je me suis dit, avec des grands noms pareils, si on jette ça maintenant, ben c'est le moment de collectionner, parce qu'il faut toujours travailler à rebrousse-poil. Et 93, moment où, ayant des objets au-dessus des armoires, sous le lit, un peu partout, et dans le dépôt de la firme où je travaillais, Bah, il a bien fallu que j'achète une maison parce que ce n'est pas une collection facile. Certaines pièces sont de la taille d'un bic, d'autres une table de 3 mètres de diamètre et donc il faut de l'espace. Ouais. Et ça a été le début de l'aventure du Plasticarium.
Quand j'évoquais tout à l'heure cette fameuse chaise tulipe, je pense que tout le monde peut l'imaginer, là, du Finlandais Eero Saarinen, il y a d'autres pièces symboliques. Quelles sont les autres pièces symboliques de cette évolution du plastique?
Les containers de cartel. C'était une dame qui avait participé à un concours organisé par le directeur de la firme, M. Castelli, et elle a gagné le concours du tabouret, et puis elle l'a épousé, et puis Mme Ferrieri a fait tous ces containers empilables. Ce qui était intéressant, c'est que si on n'avait pas beaucoup d'argent, on pouvait compléter, retourner au magasin, faire des ensembles, au cours de 10-15 ans d'une vie, et compléter. C'est ainsi que des univers ont pu se créer.
Et pour se replonger dans ces univers, donc je vous propose de vous rendre à l'Atomium. Donc, hein, cette exposition, le plastique, c'est fantastique. C'est quelques semaines encore. Hein.
C'est jusqu'à fin du mois de mai.
Voilà, donc on a encore un peu de temps. Merci beaucoup, Philippe Dessel, d'avoir été avec nous aujourd'hui.